Play one more tune. I gotta play one more tune and it like this. I gotta play the vice one to Brigadier Jerry.
Vivons la lutte contre la propagation de la COVID-19. De nouveaux programmes de soutien sont en place pour les personnes qui en ont besoin, notamment un régime d'assurance emploi plus fort et plus accessible, ainsi que 3 nouvelles prestations de relance économique. Continuer à soutenir les Canadiens maintenant nous aidera à assurer notre sécurité et à rendre le Canada plus résilient. Consultez canada.ca/le-coronavirus pour en savoir plus sur les nouveaux programmes de soutien aux revenus. Un message du gouvernement du Canada.
CKUT Radio.
Radio.
Sound waves in the air.
CKUT.
Montreal, Canada.
CKUT.
Bienvenue à votre émission La Voix des immigrants. Je suis Mukala, votre animatrice, comme à l'habitude. Donc, ça fait très longtemps, oui. Je dirais que ça fait plusieurs mois. En fait, la dernière émission, je crois que j'étais en onde au mois de mars ou d'avril, dans ces eaux-là. Et donc, à cause du COVID, les bureaux de sécurité ont fermé et puis il nous était impossible de se présenter en onde. Mais depuis peu, donc depuis aujourd'hui, en fait le 26 novembre, on enregistre des émissions à distance à la maison et donc je serai de retour une fois par mois pour vous parler de toutes sortes de sujets. Hein, donc traitant de l'immigration, oui bien entendu, mais traitant de nouvelles, d'actualités de tout genre. Donc je suis bien heureuse de vous retrouver. Puis voilà, puis j'ai hâte de passer, en fait, là, on est au mois de novembre, le prochain mois, le mois de décembre. Mon Dieu, l'année a passé tellement vite, là, c'est incroyable. Donc, décembre, c'est bientôt Noël. Puis l'année 2021 qui débute. Donc, je suis bien heureuse de terminer l'année avec vous pour débuter une nouvelle année. Donc, voilà. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, on va parler du COVID, évidemment, hein, pour faire différent. Donc, du COVID-19 et des travailleurs essentiels, donc de cette problématique des travailleurs essentiels. Et puis, en fin d'émission, je vais vous présenter les mesures promulguées par la Commission des normes de l'équité et de la santé sécurité, donc destinées aux employeurs pour protéger la santé et sécurité de tous les travailleurs du Québec, donc québécois, mais également là, donc des travailleurs étrangers temporaires et travailleurs d'agences de placement. Oh, oui, on parle de vaccins depuis bien longtemps, mais dernièrement, je crois là, qu'un vaccin a officiellement été trouvé. Et puis le Canada s'apprête à faire vacciner l'ensemble des Canadiens, donc de vaccination. Puis c'est important. Habituellement, je ne me fais pas vacciner. Habituellement, je suis un peu contre les vaccins, donc contre le vaccin de la grippe. Mais je crois que c'est important là, pour cette fois-ci là, que l'on se fasse tous vacciner.
Bonjour à tous. Et oui, hein, la saison grippale est à nos portes, on le sait. Et on ne pouvait pas ne pas en parler à Très Pharmacien. Surtout que cette année, c'est particulier parce qu'on est en présence de la COVID-19 et de l'influenza. Et on le sait, hein, il faut se le dire, ce sont des virus qui présentent des symptômes similaires. Parallèlement à ça, on a les nouvelles activités associées à la loi sur la pharmacie qui vont permettre aux pharmaciens de prescrire des médicaments dans un contexte d'influenza, que ce soit dans un contexte de prévention, de traitement ou de vaccination. Alors, à Très Pharmacien, on a eu envie de vous soutenir dans cette situation hors du commun de COVID, d'influenza et de nouvelles activités. Et pour en parler avec nous, nous recevons Daniel Thirion, qui est pharmacien au Centre universitaire de santé McGill et professeur de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour Daniel.
Allô Nathalie, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui.
On est content de t'avoir avec nous. Dis-moi d'entrée de jeu, là, peux-tu me rappeler c'est quoi les éléments associés à l'influenza qu'on va retrouver dans les nouvelles activités de la loi sur la pharmacie qui est pour le moment, là, lors de l'enregistrement, toujours pas adoptée?
Oui, c'est très intéressant. Alors, on appelle le nouveau projet de loi, la loi 31, qui a été passée à l'Assemblée cet été. Et ce que cette loi mentionne plus précisément pour l'influenza, c'est que les pharmaciens peuvent prescrire des antiviraux pour traiter des patients avec l'influenza qui sont à risque de complications. Et ils peuvent aussi prescrire des antiviraux pour prévenir l'influenza chez les patients qui sont à risque de complications s'ils l'attrapent.
C'est ça. Ben, j'ai dit que la loi n'était pas adoptée, mais en fait, la loi est adoptée, mais c'est les règlements qui ne sont pas adoptés. Puis la prescription des antiviraux, ça fait partie des règlements là, dont on attend l'adoption. Puis il y a aussi la vaccination, évidemment. Ça, on a le droit maintenant de vacciner.
Oui, alors c'est clair que les activités des pharmaciens englobent aussi la vaccination, non seulement pour l'influenza, mais pour toute la vaccination qui est disponible là, sur le marché canadien.
Bon, Daniel, parlons là, tout de suite du vif du sujet. Là, on est en pleine pandémie de la COVID-19. Comment on va faire pour distinguer les caractéristiques cliniques de l'influenza de celles du coronavirus?
En fait, le problème là, avec le COVID-19 puis l'influenza, c'est que les deux ont une présentation quasi semblable pour les patients. Donc, il va être très difficile pour les cliniciens d'être capable de distinguer les deux, mais il y a quelques indices là, qui peuvent nous aider. Plus particulièrement, le COVID-19, ce qui est intéressant, c'est que les patients peuvent se présenter avec de l'anosmie, des difficultés au niveau de l'odorat, ou encore une dysgeusie, des difficultés au niveau du goût. Et ça, c'est plus caractéristique du COVID-19. On ne voit pas ça généralement avec les patients à l'influenza. Alors, si on fait juste la comparaison entre les deux, c'est surtout les paramètres de complications là, qui sont vraiment inquiétants. Je pense que tout le monde est au courant. Mais pour le COVID-19, les patients se présentent avec une tempête inflammatoire là, qui les amène aux soins intensifs, qui peut résulter en décès. Et ce qui est important à distinguer là, cette année, c'est qu'on veut essayer de traiter l'influenza plus en milieu communautaire pour éviter de surcharger notre système de santé en établissement de santé. Alors, ce qu'on voit surtout là, au niveau de la contagion entre l'influenza et le COVID-19, c'est que là, les démarches au niveau du CDC aux États-Unis, le Center for Disease Control, est en train de déterminer que le COVID-19 a une transmission par voie aérienne, ce qui complique un peu le tableau où on doit mettre des mesures de prévention additionnelles en place. Auparavant, on disait beaucoup plus que la transmission du COVID-19 était par micro-gouttelettes. Et c'est un peu le même type de contagion qu'on voit au niveau de l'influenza là, par micro-gouttelettes. Alors, les mesures de prévention pour l'influenza ont toujours été de se laver les mains puis de prévenir de toucher les objets. Mais là, pour le COVID-19, on est un peu plus inquiet, là, surtout pour les personnes qui sont dans des salles en réunion ou en groupe là, à rapprocher ou qu'ils sont dans des endroits qui sont mal ventilés. Ça, c'est un petit peu plus problématique. Mais ça, c'est au niveau de la transmission. Quand on parle des complications, comme je l'ai mentionné, les complications du COVID-19 peuvent être beaucoup plus graves que l'influenza. Avant la pandémie d'influenza en 2009, on n'avait jamais vu de patients sous soins intensifs. Maintenant, on en voit de temps en temps, mais avec le COVID-19, là, ça remplit nos soins intensifs. Ça prend toute la place là, au lieu de nos patients en chirurgie. Là. Avec le COVID-19, les complications sont beaucoup plus graves, sont plus fréquentes. Et c'est en train de surcharger nos établissements de santé.
Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis avant 2019, on n'avait jamais vu des patients en soins intensifs? Tu veux dire pour l'influenza?
Pour l'influenza, en 2009, quand on a eu la pandémie, avec l'introduction de la nouvelle souche H1N1, il y a une bonne partie de la population qui avait zéro immunité. Et donc, on avait des cas plus graves. Et on avait quelques patients qui se ramassaient aux soins intensifs, qui avaient besoin de soins vraiment particuliers. Ça semble s'estomper depuis 2009. Mais avec le COVID-19, c'est clair, là, nos soins intensifs sont remplis. Là. Au mois de mars, avril, c'était très plein. Et c'est le cas en ce moment. Là, on commence à avoir une augmentation du nombre de cas dans nos soins intensifs.
Puis si je te ramène à l'influenza, là, le fait qu'on a mis tout plein de mesures en place justement pour prévenir la propagation de la COVID-19, est-ce qu'on va, logiquement, là, on devrait avoir moins de patients atteints d'influenza? Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, Nathalie, ton impression est bonne. On a vu dans l'hémisphère sud, pendant la période d'isolement, là, dans leur période d'hiver, mars, avril, une diminution dramatique des cas d'influenza comparé aux années antérieures. Alors, on a espoir un peu au Canada qu'on ait moins d'influenza si on maintient les mesures de confinement qui sont en place actuellement.
J'imagine que c'est un peu ce qu'on désire, là, parce que ça va être vraiment un casse-tête là, d'avoir les deux virus qui se chevauchent simultanément. Là.
Oui, alors c'est clair que pour la société, on aimerait pouvoir sortir du confinement le plus rapidement possible et régler le problème. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Puis si un des effets bénéfiques, c'est qu'on évite la transmission de l'influenza, bien, ça va nous épargner notre système de santé sur ce fardeau additionnel qu'on veut éviter.
Là. OK. Rendons ça pratico-pratique. Là. Je suis en présence d'un patient. qui a des symptômes de grippe ou des symptômes de COVID, là, je ne le sais pas trop, qui présente une fatigue soudaine. On est en pleine pandémie, elle se sent faible, mais tu sais, pas vraiment d'anosmie ou dysgeusie. Qu'est-ce que je fais?
OK. Donc, les premiers patients qui vont se présenter, là, soit en milieu communautaire là, ou encore pour des pharmaciens qui sont à l'urgence, le contact est peut-être un petit peu différent dans les deux milieux, là, mais l'évaluation des patients passe premièrement par la COVID-19 et on a des mesures en place pour la santé publique pour le dépistage des patients COVID-19. Là, si le patient ne rencontre pas les critères de dépistage pour le COVID-19, mais se présente quand même avec un syndrome d'allure grippale, et c'est là qu'on met l'emphase, c'est sur les symptômes, alors on peut commencer à faire l'évaluation de ces patients-là pour initier le traitement. Alors, c'est un peu notre objectif là, au niveau du gouvernement, c'est de pouvoir donner la possibilité aux pharmaciens de prendre en charge certains patients qui n'ont pas besoin d'être pris en charge dans nos établissements de santé.
Fait que je comprends que ça serait quelqu'un qui, on passe les critères associés au dépistage de la COVID-19, puis on pense que ouf, ça ne fit pas, c'est pas tout à fait ça. Donc, c'est là qu'on pourrait peut-être vouloir prescrire une prophylaxie.
Oui, c'est ça, exactement. Pour les patients symptomatiques, on va vouloir procéder au traitement pour les patients qui se présentent avec un syndrome d'allure grippale. Et les signes diagnostiques, en fait, c'est fièvre, douleur musculaire et présentation aiguë. Généralement, c'est ces trois critères-là qui sont les plus importants. Et ce que j'aimerais annoncer aux auditeurs, c'est que l'INES travaille sur un guide pour aider les pharmaciens à faire leur travail concernant le dépistage des patients qui ont l'influenza. L'autre élément clé, là, c'est de regarder l'activité d'influenza sur le territoire. Et ça, ces données-là sont disponibles par l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, qui va nous indiquer si on a des cas d'influenza sur nos terrains. C'est sûr qu'en début d'éclosion, on ne sera pas capable d'avoir l'information, mais les données sont disponibles à chaque semaine, donc sont disponibles assez rapidement pour nous indiquer si on doit avoir des cas d'influenza sur notre territoire ou pas.
Pour poursuivre l'émission, on va écouter ensemble. On vient de se retrouver, puis on écoute déjà une belle petite pièce musicale, mais pourquoi pas? Donc, on va écouter ensemble la pièce musicale « Le long chemin » de Nicolas Tchikonde. Donc, une pièce musicale d'à peu près là, 4 minutes, puis on se retrouve par la suite. Et on va parler donc des travailleurs essentiels. Donc, voici pour vous Nicolas Tchikonde, « Le long chemin ».
Quelque part entre nos joies et nos peines, on choisit un long chemin et je mis ma vie dans la tienne. On marcha jusqu'au matin, se déliant de toutes nos chaînes, et on déjoua le destin à chaque pas. Le long chemin est si beau, je pourrais y marcher toute ma vie en rêvant de m'y perdre dans tes bras. Le long chemin avec toi est si beau, attrape ma main si tu veux bien et avançons toujours plus loin. On ignorait le parcours, on se fiait sur les étoiles, avançant à contre-jour, sans boussole ni gouvernail. On se moquait des détours, arriver n'était qu'un détail. Je ne pouvais plus m'égarer car tu étais là. Le long chemin est si beau, je pourrais y marcher toute ma vie en rêvant de m'y perdre dans tes bras. Le long chemin avec toi est si beau, attrape ma main si tu veux bien et avançons toujours plus loin. réveille à chaque matin. Entre mes joies et mes peines, je revois ce long chemin. Et à chaque fois, il m'émerveille. Doucement, je prends ta main et je pose ma vie dans la tienne. Dis, tu veux y marcher pour toujours avec moi? Le long chemin est si beau, je pourrais y marcher toute ma vie en rêvant de m'y perdre dans tes bras. Le long chemin avec toi est si beau, attrape ma main si tu veux bien et avançons toujours plus loin. Le long chemin est si beau, je pourrais y marcher toute ma vie en rêvant de m'y perdre dans tes bras. Le long chemin avec toi est si beau, attrape ma main si tu veux bien et avançons toujours plus loin. Une nuit perdue quelque part.
C'était la pièce Le long chemin de Nicolas Ciccone. Me revoilà en onde. Donc, les travailleurs essentiels, je trouvais ça important de vous en parler parce qu'effectivement, le COVID a amené toute cette problématique finalement des, ben c'est ça, de ces gens qui travaillent pour nous, qui sont en fait bon, des travailleurs invisibles, pas nécessairement, mais en fait, a ramené, je dirais, là, en actualité toute cette question de vulnérabilité, de précarité. Puis donc, les travailleurs essentiels, pour moi, c'était important d'en parler. Parce que ben, je trouve qu'on, en fait, qu'on doit se sensibiliser. En fait, c'est important de se sensibiliser à cette question. Donc, de ces gens qui existent, qui sont là, qui travaillent pour nous. Puis bon, à bas salaire et dans des conditions difficiles. Puis finalement, ben, c'est ça. On réalise que ces gens-là sont importants dans ce genre de moment, donc des moments de crise. Hein. Et puis, souvent, on a tendance à valoriser les super métiers, les super professionnels, mais il y a ces gens qui sont davantage au bas de l'échelle, qui sont importants et qui ont besoin, là, je pense aussi, qu'on les qu'on parle d'eux, qu'on les élève des fois. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Donc les fameux travailleurs essentiels. Donc, en fait, je me suis fiée, là, j'ai consulté, lu deux articles. Un premier article paru sur le site de Conversation. Donc, l'article s'intitulant « Ces travailleurs rejetables qui deviennent essentiels en temps de crise ». Et donc, je vous résume en gros l'article. Ce que l'on dit, c'est que la pandémie actuelle est un puissant donc, révélateur de la précarisation de l'emploi et de l'exploitation des travailleurs à bas salaire qui sont devenus essentiels depuis le COVID-19. Donc, depuis le virage néolibéral, donc on sait qu'on est dans une... C'est ce qu'on dit, hein, c'est ce que les grands politiciens disent, les grands économistes. Nous sommes dans une ère néolibérale, donc le capitalisme vraiment à fond. Et donc, on a besoin de gens qui sont là pour produire et produire et produire. Et puis donc, depuis ce temps, donc on a des... il y a eu, ben, depuis bien longtemps en fait... Le travail à temps partiel, le travail à contrat, le travail sur appel, via les agences de placement est devenu, a explosé. Hein, ce type de contrat, en fait, de statut a explosé. Donc, 40 ans après le virage néolibéral, plus du tiers des travailleurs canadiens ont des statuts d'emploi atypiques. Donc, on les appelle atypiques, ces gens-là qui travaillent à temps partiel, sur contrat, sur appel. Donc, atypiques et précaires. Ces travailleurs sont facilement éjectables, comme l'a montré la rapidité des mises à pied depuis mars, donc le début de l'année, donc au mois de mars, finalement confinement, et puis ben, mise à pied, puis ben, vraiment, pourquoi? Est-ce que c'est nécessaire de mettre autant de gens à pied? Bon, probablement, parce que bon, il y avait moins, je veux dire, les entreprises fermées, mais tout de même, tu sais, c'est la plus grande part... des gens qui ont été mis à pied, on le comprend, sont des... En fait, des gens qui étaient facilement éjectables. Et qui est facilement éjectable? Est-ce que c'est l'infirmière, pas nécessairement. Quoique les infirmières, hein, elles sont dans l'essentiel. Puis, donc, les infirmières ont peut-être pas été touchées par des mises à pied, mais bon, des gens dans le commerce de détail, peut-être pas également, mais tout de même, ces petits travailleurs-là qui, finalement, qui sont là juste pour... qui sont pas nécessairement, qui remplissent pas une super mission, entre guillemets, sont devenus éjectables très rapidement. Donc, ces travailleurs se sont retrouvés du jour au lendemain, pas dans la rue, mais sans situation et sans le sou. Si on se rappelle, en fait, on en parlait dans les nouvelles dernièrement, sur Notre-Dame, il y a eu des sans-abri qui sont apparus donc dans leur tente et tout. Puis apparemment, donc, bon nombre de ces sans-abri sont des gens qui avaient perdu leur emploi là, du fait du COVID. Donc, voilà. On aurait pu davantage aider ces gens qui ont perdu leur emploi, mais apparemment, donc, les prestations de chômage auraient pu les protéger, sauf que ces prestations de chômage valent pour 4 travailleurs sur 10. Et puis, ce que l'on dit, c'est que les femmes, en plus grande proportion, n'ont pas accès au chômage parce qu'en plus grande proportion, elles travaillent, elles occupent des emplois à temps partiel, parce que, ben, justement, pour avoir accès au chômage, en fait, une des conditions pour l'accès au chômage est d'avoir travaillé un nombre suffisant d'heures. Et donc, parce qu'elles travaillent en plus grande proportion à temps partiel, mais nécessairement, pour elles, d'avoir accès au chômage, ça devient plus compliqué. Donc, depuis la mi-mars 2020, on s'est retrouvé avec bon nombre de personnes mises à pied, des gens qui sont éjectables. Donc, on ne parle pas nécessairement de l'informaticien. L'informaticien va faire du travail à domicile. Donc, on ne parle pas nécessairement du grand professionnel. On va parler, donc, je ne sais pas, du travailleur, mais des cuisiniers hein, dans la restauration. Puis, qui d'autre? Bon, les infirmières, non. Les médecins, c'est clair que non. Mais ces métiers qui ne sont pas nécessairement là, absolument nécessaires, selon nous, là, en tout temps, alors qu'aller au restaurant, ben, c'est un bon divertissement. Donc, voilà, on aurait pu éviter bien les mises à pied en se disant, ben, on a besoin, dans ce temps de COVID, de se divertir un peu, mais non. Donc, bref, fin de l'aparté. Pour mettre davantage en contexte cette réalité des travailleurs essentiels devenus indispensables en ce temps de crise, mais des travailleurs donc vulnérables, qu'on peut facilement éjecter, comme le cuisinier, prenant le cas donc, des préposés aux bénéficiaires. On l'a vu dans les nouvelles, ça fait toute une histoire, cette histoire des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD, parce que bon, hein, c'était la folie furieuse. Des personnes qui ont perdu la vie. Probablement, en fait, c'est ce qu'on dit, parce que ben, il y avait un nombre insuffisant de préposés. Et donc, finalement, bon, c'est difficile à expliquer, mais finalement, donc, il y a eu des décès. Monsieur Legault, donc le premier ministre, pour aller chercher du personnel en plus, puis ben, retenir le personnel. Beaucoup de préposés voulaient quitter, étant donné la situation difficile. Hein? Donc, on se retrouve à travailler dans un milieu où finalement, tu risques d'être contaminé rapidement. Donc, M. Legault a décidé de rehausser le salaire des préposés aux bénéficiaires. Puis donc, voilà, tant mieux, c'est une bonne chose, mais hein, cette histoire de rehaussement a révélé toute une espèce de problématique, donc du salaire du travail injustement payé, du travail non reconnu à sa juste valeur des préposés aux bénéficiaires. Donc, avant le rehaussement des salaires, les préposés gagnaient autour de 17 $ de l'heure. Puis aujourd'hui, donc, avec les fameuses primes, on parle, donc, apparemment, donc, c'est ce qu'on le sait tous, donc, d'un salaire variant, là, autour de 26 $ de l'heure. Mais ce qu'on comprend, c'est que finalement, il y avait toute une problématique de travail non reconnu à sa juste valeur, donc du travail des préposés aux bénéficiaires. Ce que l'on dit dans l'article, c'est que donc les préposés aux bénéficiaires revendiquent encore aujourd'hui la mise en place d'un décret de convention collective, c'est-à-dire qu'elles veulent... elles veulent avoir accès aux mêmes conditions de travail. Donc, chacune des préposées du Québec devrait avoir accès aux mêmes conditions de travail. Pourquoi? Ben, j'imagine pour aller créer une espèce de pas de justice, mais pour hein, qu'on va mettre toutes les préposés sur un même pied d'égalité. Parce que bon, on a les préposés en fait là, du secteur public, on a les préposés qui travaillent pour les agences de placement. Donc, pour un décret pour ces raisons, entre autres pour cette raison. Et voilà, donc c'est ce que, en fait, c'est ce que les préposés revendiquent. Monsieur Legault, apparemment, ce qu'il aurait fait, donc oui, il a rehaussé le salaire, là, je dis bien, là, des préposés, ce qui est une bonne chose, mais apparemment, il aurait opté, voté plus de 30 arrêtés ministériels pour, en fait, suspendre l'application des conventions collectives et faire en sorte que les préposés, finalement, n'aient pas le choix de travailler. Donc, pour faire face au manque croissant de personnel, M. Legault, donc, a justement, donc, je répète, là, adopté des arrêtés ministériels et puis, donc, pour modifier là, de façon unilatérale les disponibilités des travailleuses et les en fait, les obliger à travailler. Hein? Sans pouvoir, en fait, là, prendre hein, de congés ou s'écarter d'un milieu qui, au fond, était devenu dangereux. Donc, voilà, c'est ce qu'on dit en gros dans l'article. L'article est paru sur le site de Conversation. Deuxième exemple, on a l'exemple donc, des travailleurs à bas salaire. On ne fait pas le lien ici avec les préposés ou bien tout ce qui est travailleurs de la santé, mais on parle davantage des travailleurs qui travaillent dans les pharmacies, les épiceries, les restaurants, pour ceux qui n'avaient pas été mis à pied, les entrepôts, les travailleurs qui font de la livraison, de l'entretien, également donc les travailleurs du secteur communautaire, donc travailleurs à bas salaire. Et ce que l'on dit, c'est que ces travailleurs, on le sait, donc sont principalement des femmes et des personnes racisées issues de l'immigration. Donc, ces travailleurs également... essentiel parce que les commerces sont restés ouverts. En fait, il a fallu les reconnaître davantage. Donc, M. Legault a opté pour une prime de 400 $ par mois pour hausser le salaire. Mais bon, pourquoi? Parce qu'il fallait les maintenir au travail. Est-ce qu'on pouvait les écarter et dire ben, on ferme l'épicerie? Ben, je ne sais pas dans quelle mesure on pouvait fermer les épiceries du Québec, mais. Tout de même, on comprend là, que c'était problématique parce qu'au fond, ces travailleurs étaient obligés là, de travailler dans un milieu qui n'était plus sécuritaire, qui était devenu un peu dangereux, un peu comme dans les CHSLD. Puis, voilà, puis c'est des femmes principalement, des personnes issues de l'immigration, des personnes racisées. Donc, voilà, ces travailleurs, en fait, autant les préposés aux bénéficiaires que hein, toutes ces personnes qui travaillent dans les commerces, pharmaceries, etc., ont besoin là, d'être reconnues à leur juste valeur parce qu'elles nous ont rendu de grands services. Puis, bon, la pandémie n'est pas terminée. Hein, donc, là, oui, on a trouvé un vaccin, mais bon, après, on ne sait pas ce qui va se passer. Bon, hein, la campagne de vaccination va avoir lieu quand, on ne sait pas trop. Donc, pour l'instant, je crois, en fait, là, que ces travailleurs ont besoin d'être, comment dire, reconnus, puis d'être élevés, parce que pour nous, je fais du télétravail, les informaticiens vont faire du télétravail, on est un peu protégés, mais il y a comme bon nombre de travailleurs qui sont là, qui travaillent dans des conditions là, dangereuses pour nous rendre service, là, nous, les professionnels, et puis, bon, nous qui ne sommes pas là, des travailleurs essentiels. Donc, voilà. Donc, c'était important pour moi d'en parler pour cette raison. Également, je vous reviens, on va écouter là, j'enregistre l'émission à distance, donc là, je ne vais pas faire semblant, là. Il est présentement, donc, 22h21, le 25 novembre. Mais là, je fais comme si on était le 26 novembre. Donc là, j'allais dire il est, mais il est 22h21, le 25 novembre. Donc, bref, tout ça pour dire que on va écouter ensemble une petite pièce musicale, M'aimerais-tu pareil, du groupe Les Deux Frères. Et on revient par la suite, non, on se retrouve par la suite et je veux vous parler de la coalition pour la régularisation des statuts. Donc, une coalition qui a été formée par en fait, plusieurs individus là, au Québec ici, pour en fait, qu'on puisse régulariser le statut de travailleur essentiel issu de l'immigration, donc qui n'avait pas de statut, qu'on puisse donc dire ben, voilà, vous nous avez rendu service en quelque sorte, là, puis on veut que votre statut soit régularisé pour que vous puissiez avoir. une citoyenneté éventuellement là, canadienne et québécoise, peut-être, hein, un jour. Donc voilà. Donc on va écouter ensemble la pièce Même Reste Pareil du groupe Les Deux Frères. Donc on écoute ensemble un petit 2 minutes, 2-3 minutes, et on se retrouve par la suite.
M'aimerais-tu pareil si j'étais jaune ou gris? Si par un soir d'été je t'oubliais sous la pluie? Si par mégarde j'oubliais ton anniversaire? Ou que j'oubliais de réchauffer ton hiver? M'aimerais-tu pareil si j'étais plus jaloux? Si quand tu sors toute seule, moi je devenais marabout? Puis quand je regarde les autres femmes et que toi tu t'inquiètes? Parce que je t'ai promis que t'aurais jamais frette? M'aimerais-tu pareil si j'étais un peu plus petit? Si à cause de ma job, j'étais toujours parti? Puis si pour un soir, par maladresse, je te faisais l'amour avec moins de tendresse? M'aimerais-tu pareil si j'avais pas une scène? Si quand je décide de vivre, que toi ça te fait de la peine? Puis quand j'écoute tes larmes couler sans dire un mot, par peur de trop en dire, puis peut-être même d'en faire trop? Ton image, quand je deviendrai trop vieux, moins jeune mais plus sage, quand au lieu t'aider, moi je te ferai manquer d'air, parce que ma jeunesse a repris de l'arrière. M'aimeras-tu pareil quand j'aurai mal partout, quand je me plaindrai sans cesse, quand je me plaindrai de tout, quand j'aurai le mal de la vie qui peine à continuer? Ben moi c'est dans tes bras que je voudrais capituler. M'aimeras-tu pareil quand je crugerai mon solage? Et quand sur mon lit de mort, avant de tourner la page, je te tiendrai la main pour terminer ma vie dans le plus bel enfer, dans la plus belle nuit? M'aimeras-tu pareil quand je te dirai je t'aime pour la dernière fois jusqu'à la dernière peine? Dans le plus long des silences, moi je te le dirai encore. Qu'est-ce qui m'en empêchera et pourquoi j'aurais tort? M'aimeras-tu pareil quand je serai parti? Quand je laisserai tes larmes couler sans mépris? Quand je tomberai de vieillesse, quand je perdrai mes idées? Ben y'a qu'une seule chose que je pourrai jamais oublier. C'est que je t'aimerai pareil.
M'aimerais-tu pareil des deux frères? Je cherchais là, des pièces là, pour l'émission d'aujourd'hui, puis je suis tombée sur cette pièce qui on la connaît bien. C'est une vieille pièce musicale, mais que j'aimais bien et que j'aime toujours aujourd'hui. Donc, M'aimerais-tu pareil là, du groupe Les Deux Frères. Donc, voilà. Donc, je disais juste avant cette courte pièce musicale que l'on allait parler là, de la coalition pour la régularisation des statuts de travailleurs essentiels qui ont travaillé puis bon, qui n'avaient pas de statut, donc des immigrants en fait. Donc, la coalition a tenu samedi dernier apparemment, donc samedi le 21 novembre, un rassemblement à Montréal pour revendiquer l'éligibilité des travailleurs, donc hein, de leurs personnes, au programme de régularisation des statuts d'immigration. Le premier ministre François Legault aurait indiqué son ouverture donc à l'élargissement du programme. Donc apparemment au début, M. Legault était un peu contre l'idée d'accorder un statut à ces gens-là qui vont non, hein, ont pas nécessairement le droit de résider de façon permanente au Québec. Donc, mais aujourd'hui, donc, M. Legault serait plus ouvert à l'idée donc, justement d'élargir le programme à ses travailleurs essentiels à la suite donc, d'une discussion avec Madame la députée Françoise David qui a eu lieu donc, le 10 novembre dernier. Donc, c'est positif. La coalition a pour objectif donc la régularisation du statut d'immigration, qui en fait met une fois évidemment donc les personnes concernées, donc les travailleurs concernés devront respecter donc les conditions d'admissibilité. Elle exigeait la suspension en plus donc des renvois et des procédures d'asile de ces personnes pendant le traitement de leur demande. Donc on l'espère hein, quand même. Je veux dire, le travers essentiel, l'immigrant devenu travers essentiel qui a travaillé, bon, je ne sais pas où, hein, comme préposé au bénéficiaire. Bon, est-ce qu'on peut lui dire un petit merci en fait en lui disant ben voilà, pendant le traitement de ton dossier, de ta demande, on suspend tout ce qui est renvoi et procédure d'asile. Donc, voilà, suspension des renvois et des procédures d'asile. Et puis, la coalition dit finalement, donc, si le gouvernement lui-même a défini le service qui effectue ces personnes comme essentiel, donc, elle mérite donc qu'il y ait régularisation de leur statut au même titre que celles et ceux qui étaient en contact direct avec les personnes atteintes de la COVID-19. Donc, qu'on leur accorde, en fait, là, si on comprend bien du respect.
Parti doucement en portant ses réserves de rire, de plaisanterie, rien n'est plus comme avant. Ça fait un an maintenant que l'on a vu partir l'hôte de ton visage, le plus beau des sourires. Le sourire ordinaire se repose la nuit, se lève plus ou moins bien dans l'air frais du matin. Le tien devait être fatigué, il doit se reposer. Un an c'est quand même long, mais qu'est-ce qu'il va briller? Tu te lèveras un matin pour ouvrir tes volets. Il sera juste derrière, te sautera au visage. Vous sortirez tous les deux, admirer le paysage qu'offre soudain la vie lorsqu'on tourne certaines pages. La, 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 la. Et
ce matin, toujours rien derrière tes volets. Il n'y a qu'un gros cafard, vraiment pas le coup de te lever. La pluie ne fit le bruit, inonde ton espoir de retrouver celui que tout le monde aimerait voir. Ton sourire est parti, ton front semble si lourd, tu n'as aucune envie. Plus d'amis, plus d'amour, un train tourne dans ta tête. Ton regard est hagard, il t'empêche de voir qu'il n'est peut-être pas si loin. Tu te lèveras un matin pour ouvrir tes volets. Il sera juste derrière, te sautera au visage. Vous sortirez tous les deux, admirer le paysage qu'offre soudain la vie lorsqu'on tourne certaines pages. La, 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 la. T'as sauté au visage, vous êtes sortis tous les deux, admirer le paysage qu'offre soudain la vie lorsqu'on tourne certaines pages. La 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 la, allez, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Je vais tout de suite passer à ces fameuses mesures promulguées par la Commission des normes de l'équité de la santé et sécurité. C'est important qu'on en parle parce que ben, on n'est pas tous au fait, en fait, de ces mesures promulguées. Puis bon, on est travailleurs, on est, pour ceux qui ont repris le travail, on est bien contents, mais voilà, vous avez le droit, en fait, d'être, en fait, vous devez être protégés. OK. Donc, les mesures, en fait, toute l'information, on la retrouve sur le site de la commission. Donc, vous allez sur le site de la commission des normes de l'équité de la santé et sécurité. Et puis, bon, secteur santé et sécurité. Et puis, donc, vous avez des rubriques là, spéciales pour les mesures de contrôle en cette période de COVID-19. Donc, ce que l'on dit, c'est que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, sécurité et l'intégrité du travailleur. Il doit notamment lui fournir gratuitement tous les moyens et équipements de protection requis. Les guides de normes sanitaires de la CNSST prévoient 5 principes qui doivent être respectés pour contrôler les risques liés à la COVID-19. Donc, évidemment, on a la distanciation physique. Donc, qui réunit 3 mesures clés. Donc, l'employeur doit revoir l'organisation du travail pour s'assurer qu'une distance d'au moins 2 mètres entre le travailleur ou la travailleuse et toute autre personne, donc on parle d'un autre travailleur, d'un client, d'un fournisseur, est maintenue en tout temps. Lorsque ce n'est pas possible, et donc si la configuration du milieu de travail le permet, des barrières physiques, donc un panneau de plexiglas, par exemple, doit être installé entre le travailleur et toute autre personne. En dernier recours, lorsque le travailleur ou la travailleuse doit obligatoirement avoir des interactions avec toute autre personne, à moins de 2 mètres, il ou elle doit porter 2 équipements de protection. Hein, le masque, puis hein, une protection oculaire. Donc ça, je n'étais pas au courant. On parle de masque, de masque, de masque nouvelle, mais pas de protection oculaire. Donc, si vous devez travailler à moins de 2 mètres avec un collègue ou un client ou un fournisseur, vous devez porter un masque et une protection oculaire, une lunette de protection ou une visière. Il est possible, donc, de porter uniquement un masque dans le cas où les travailleurs portent tous un masque, donc tous les autres travailleurs portent un masque, donc vous pouvez vous présenter là, avec un masque uniquement. Et donc, si jamais il n'y a aucune interaction avec la clientèle, le port de la protection oculaire demeure obligatoire pour toutes les interactions à moins de 2 mètres sans barrière physique avec les clients portant un couvre-visage. OK, donc... Vous êtes à moins de 2 mètres avec un client, un fournisseur, il n'y a pas de barrière physique. La personne a un couvre-visage, vous devez le porter, si je comprends bien, mais vous pouvez lire les documents, vous devez porter là, une protection oculaire. La visière seule n'offre pas une protection suffisante. Toutefois, lorsque une analyse de risque rigoureuse démontre que le port du masque entraîne un risque pour la santé ou la sécurité du travailleur ou de la travailleuse, le port d'une visière seule recouvrant le visage jusqu'au menton peut être une solution exceptionnelle. Donc, la visière seule, c'est un non. Toutefois, lorsqu'une analyse rigoureuse démontre que le port du masque de procédure entraîne un risque pour la santé et sécurité, donc indépendamment du travail exercé, vous pouvez porter une visière seule recouvrant le visage jusqu'au menton, mais vraiment à titre de solution exceptionnelle. Une interaction brève et peu fréquente, donc lorsque l'on croise un collègue ou peu importe, un client, un fournisseur dans le corridor ou un escalier, sans équipement de protection, représente un risque négligeable et acceptable lorsque cette rencontre dure moins de 15 minutes par quart de travail. Donc, il est suggéré que le milieu évalue préalablement les déplacements durant donc un quart de travail pour vérifier bien, si finalement, même lorsque l'on croise un individu, un collègue, un client, un collègue davantage, là, un client aussi, possiblement un fournisseur, donc pour minimum ou maximum en fait 15 minutes, est-ce que donc le port du masque est devenu obligatoire? Donc, mesure, en fait, là, promulguée par la Commission des normes de l'équité de la santé et sécurité pour l'ensemble des travailleurs, donc mesure que doivent respecter votre employeur absolument. Okay, donc, c'est important de savoir que ces mesures existent. Maintenant, pour les travailleurs d'agences de placement, les travailleurs étrangers temporaires, hein, donc des gens qui sont... Hein, en fait, nous sommes à l'émission où il y a la voix des immigrants. Beaucoup de travailleurs étrangers temporaires, évidemment, sont des gens issus de l'immigration. Beaucoup de travailleurs d'agence également sont des gens issus de l'immigration. Donc, c'est important que l'on en parle. Donc, vous, travailleurs étrangers temporaires, travailleurs d'agence de placement, donc, votre sécurité, au fond, là, vous êtes protégés également. C'est important, en fait, donc, d'appliquer toutes les mesures de prévention et d'encourager vos collègues à le faire également. Il ne faut pas mettre votre vie en danger, votre santé, votre sécurité, votre intégrité, physique, parce qu'en fait, vous voulez travailler. Hein, je comprends bien souvent la réalité du travailleur étranger temporaire, surtout qui a besoin de travailler. Mais bon, il faut, en ce temps de COVID, votre santé, votre sécurité, votre intégrité physique va au-delà, passe avant le COVID. Donc, vous présentez des symptômes de la COVID-19, avertissez votre employeur. Ne vous présentez pas sur votre lieu de travail ou au lieu de rassemblement pour le transport collectif. Les fameuses agences de placement, donc ceux qui travaillent dans les agences, qui prennent un autobus à un certain moment, le matin ou le soir, ou peu importe. Donc, vous présentez des risques, ne vous présentez pas donc sur le travail ou à cet endroit où on prend l'autobus. Et donc, il faut s'isoler. N'oubliez pas également que votre emploi est protégé si vous devez vous absenter en raison d'une maladie. Donc, vous avez le droit de vous absenter. Vous avez accès aux soins de santé du Québec. Et puis, vous pourriez être indemnisé si vous avez été infecté par la COVID-19 en milieu de travail. J'ai pour vous maintenant des numéros de téléphone, en fait un numéro de téléphone, une ligne d'information pour avoir l'information donc sur en fait le quoi faire en ce temps de COVID-19. Donc 1-877-644-4545, 1-877-644-4545. Également, vous pouvez consulter notre site web, en fait le site web de la commission pour avoir de l'information sur tout ce qui sur le processus de réclamation. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, donc si jamais vous avez être indemnisé, par exemple, pour une infection, à la suite d'une infection par la COVID-19. Donc, voilà pour les mesures de la commission, en fait promulguées par la commission des normes de l'équité de la santé et sécurité. Maintenant, l'émission sera à sa fin, donc je ne sais pas si vous en rappelez, mais je suis bénévole en fait au Centre des travailleuses et travailleurs immigrants. Et puis voilà, depuis bien longtemps, là, depuis au moins 5 ans. Puis lors de chaque émission, je parlais du fait, en fait, que l'on recherche, en fait, pas que l'on recherche, mais en fait, que si vous avez besoin d'aide, de parler de votre situation, vous pouvez nous contacter. Donc, pour tous les travailleurs étrangers temporaires, mais les travailleurs d'agences de placement, donc, vous avez besoin de faire de parler de votre situation de précaire et que l'on vous défend en matière là, de droit au travail. En fait, vous vivez une injustice selon vous. Donc, contactez-nous au Centre des travailleuses et travailleurs immigrants. Donc, vous allez trouver les coordonnées du centre. Là, je peux vous les donner. Je ne les ai pas notées. Je vais aller les chercher rapidement. Mais sinon, vous pouvez aller trouver les coordonnées du centre sur le site Internet. Puis, voilà, donc il y a des gens là-bas, des avocats, des travailleurs sociaux qui sont là pour vous aider donc à défendre vos droits. Là, si vous vivez une impasse particulière, donc on est là pour vous. Donc, je vais aller chercher rapidement les coordonnées du centre. J'oublie toujours de les noter, je ne sais pas pourquoi. Bon, à un moment donné, je vais finir par m'en rappeler, en fait. Donc, le site, c'est cti.ca, donc le site internet, c'est iwc-cti.ca. Puis, le numéro de téléphone centre, donc on a le 514-342-2111, 514-342-2111. Vous pouvez également envoyer une information par courriel, donc iwc, iwc-cti.ca, iwc-cti.ca. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'aide de toutes sortes, là, vous pouvez contacter le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants. Donc, ce qui m'a fait à l'émission d'aujourd'hui, mais avant de terminer, donc il est, il est 17h, il doit être à peu près, là, si on se met en date aujourd'hui, 26 novembre, il est à peu près 17h55. Donc, mais en réalité, il est 22h45 aujourd'hui, le 25 novembre. Donc, voilà, on va écouter une pièce musicale. Je voulais qu'on écoute ensemble une pièce, donc « Un homme debout » de Claudio Capeo. On écoute ensemble la pièce et puis on se retrouve à la fin là, pour conclure l'émission de façon là, définitive jusqu'au mois prochain. Donc, ensemble, on écoute « Un homme debout » de Claudio Capeo.
Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte.
Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir.
Ben, si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le restant.
Merci bien pour la pièce. En ce moment c'est dur, je confesse. Enfin je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie à vendre.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le restant est doux. Et tout un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout.
Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Et tout un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Et tout un temps où j'étais.
Voilà au micro. Je voulais simplement vous mentionner pour clore définitivement l'émission. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Également, vous pouvez nous contacter au département des nouvelles, donc au 514-448-4041, extension 6788, 514-448-4041, extension 6788. Également, vous pouvez nous envoyer un courriel à news@commercialsécurité.ca. Il y a également le courriel, en fait, là, parce que si jamais vous n'avez pas de réponse via le courriel news, ce qui peut arriver de temps en temps, et puisque bon, les gens sont en télétravail, donc des fois, ça devient plus complexe au niveau donc la réception des courriels. Donc, il y a production@commercialsécurité.ca. Donc, production@commercialsécurité.ca. Et puis, la prochaine émission, je regarde, hein, parce que l'émission a lieu tous les quatrièmes jeudis de chaque mois. La prochaine émission doit avoir lieu le 25 décembre, à Noël. Bon. Je ne sais pas si je peux être présente à Noël, oui. En fait, l'émission, on l'enregistre à l'avance, donc oui, je ne sais pas si elle va être présentée le 25 pile ou elle devrait être présentée même avant ou après. Mais donc, la prochaine émission a lieu le 25 décembre et puis, donc voilà. Vous avez besoin, là, vous voulez qu'on traite d'un sujet en particulier, envoyez-nous un courriel. news@sécurité.ca ou production@sécurité.ca. Puis voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'étais bien heureuse de vous retrouver. Je trouve ça bien le fun de parler en ondes. Il y a beaucoup de freestyle, mais bon, hein, je trouve ça bien plaisant. Donc, on se retrouve possiblement le 25 ou le 24 ou le 26. Ça devrait être le 25. Évidemment, l'émission va être enregistrée à l'avance. Et puis, voilà. Donc, sur ce, avant en fait, de vous quitter, on peut se quitter avec également une petite pièce musicale. Je vous souhaite une belle fin de une bonne soirée. puis une bonne fin de semaine, donc on est jeudi, et puis un beau prochain...
Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca/coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé?
Canada is serious. We must continue to practice all public health measures. Follow local guidelines for gatherings, maintain physical distancing, wash your hands, wear a mask, and download the COVID Alert app. If you have symptoms, even mild ones, stay home. Protect yourself and others. Learn more at canada.ca/coronavirus or 1-833-784-4397. A message from the Government of Canada.
You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio. From drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between, I'm your host, Sarah Day, recording from home on November 26th, 2020. On tonight's show, my guests, Quincy Armorer, Artistic Director at Black Theater Workshop on the company's 50th year.
I wanted to make sure that this season was going to be a reflection of both of those things, that we were able to honor our legacy and history by looking back. But at the same time, I think it's also really important to make sure that we're like, okay, we've gotten to this point. We've made it to 50 years. Where is the company going to be going moving forward?
Karine Kerr-Gillespie, bringing the Metas to your home this weekend.